VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kiabadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Bamako et Abidjan. Voici les titres. En France, deux anciens bourgmestres rwandais condamnés à la prison à perpétuité pour leur participation au génocide de 1994. Toujours en France, le policier mis en cause dans la mort d'un jeune d'origine africaine revient sur sa version des faits et avoue avoir menti. Médecins sans frontières suspend ses activités à Bria en République centrafricaine suite à une attaque par des hommes armés. Depuis minuit, heure de Washington, les droits de douane de 25% décidés par le président Donald Trump sont entrés en vigueur sur les importations chinoises. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Pyongyang au menu des discussions, la dénucléarisation. Au Mondial 2018, la France obtient son ticket pour les demi-finales après avoir éliminé l'Uruguay par 2-0. En ce moment, le Brésil affronte la Belgique, mais tout de suite, le journal. Deux anciens bourgmestres rwandais ont vu leur condamnation à la réclusion à perpétuité confirmée en appel par la justice française pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Karbarondo, dans l'ouest du Rwanda, en avril 1994. Le point avec Bagasikoura.
Octavien Nguenzi, âgé de 60 ans, et Tito Barahira, âgé de 67 ans, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique systématique d'exécution sommaire tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Les deux anciens bourgmestres, entourés par leurs avocats, ont 5 jours pour former un éventuel pourvoi en cassation. Les deux hommes, qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994, ont nié toute participation tuerie à Karbarondo. Ces massacres ont eu lieu le 13 avril à l'église. Près de 2000 personnes ont été pilonnées au mortier, puis découpées à la machette. C'est la deuxième fois que la justice française se prononce dans un dossier lié au génocide rwandais. L'ancien capitaine de l'armée rwandaise Pascal Simbikangwa a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.
Toujours en France, ce policier mis en cause dans la mort d'un jeune de 22 ans à Nantes assure avoir menti. Il n'a pas tiré par légitime défense, mais par accident, selon lui, Raïssa Girondin.
D'après son avocat, Laurent-Franck Liénard, le policier auteur du tir mortel a reconnu avoir fait une déclaration qui n'était pas conforme à la vérité lors de sa première audition. Cette fois, il a déclaré que c'était un tir accidentel alors qu'il plaidait pour légitime défense. Il est en garde à vue depuis jeudi pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Aboubacar Fofana, 22 ans, sous le coup d'un mandat d'arrêt pour vol en bande organisée, recel et association de malfaiteurs, a été touché au cou alors qu'il effectuait une marche arrière pour fuir la police. Par la suite, il est décédé à l'hôpital. Pour la troisième nuit consécutive, 48 heures après sa mort, des violences ont éclaté, s'étendant à de nouveaux quartiers de Nantes. Plus d'une cinquantaine de voitures ont été incendiées et en dépit de nouvelles révélations du policier, de nouvelles tensions pourraient survenir ce week-end à Nantes.
Dans un rapport examinant la situation en République démocratique du Congo ces 3 derniers mois, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande de faire davantage pour garantir en décembre prochain une élection présidentielle et législative crédible et ouverte. Toujours concernant la République démocratique du Congo, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance un cri d'alarme devant les graves violations dans la région du Kasaï, dans le centre du pays. De nouveaux experts devraient être dépêchés sur place. En Centrafrique, Médecins sans frontières a suspendu ses activités à Bria, dans le centre-est du pays. Réaction à l'attaque de sa base locale par des hommes armés. À Bangui, les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Cette nouvelle décision de MSF n'est pas sans conséquence car ce sont plus de 700 enfants atteints du paludisme qui seront affectés d'ici à la semaine prochaine. Après avoir menacé et agressé le personnel, les assaillants ont pillé la base emportant plusieurs objets de valeur dont des outils de travail. Pour l'organisation humanitaire, ce deuxième incident grave en moins de 3 mois est inacceptable. Anne-Marie Bouyel-Dieu, chef de mission MSF en Centrafrique.
Le fait d'avoir attaqué de nouveau nos équipes a créé un sentiment d'insécurité au point qu'ils ne se sentent plus en mesure d'exercer correctement leur mission, qui est de dispenser des soins aux enfants de Bria. Malheureusement, dans ces conditions, l'équipe va se retirer. C'est des soins qui ne seront plus dispensés aux enfants.
Présente à Bria depuis août 2013, MSF offre des soins médicaux gratuits. En 2017, l'Organisation humanitaire internationale a consulté plus de 50 000 patients et pris en charge plus de 350 blessés dans la ville de Bria. Freeman Sipila Bongi, VOA Afrique.
Au Bénin, la révision de la constitution souhaitée par le président Patrice Talon et autorisée jeudi soir par le Parlement va être soumise à référendum, la majorité des députés nécessaires à son adoption n'ayant pas été atteinte la nuit dernière. Le nord-est du Nigeria, foyer du groupe Boko Haram, est entré dans une phase de stabilisation post-conflit malgré les attaques persistantes, a déclaré ce vendredi le président Muhammadu Buhari. L'insurrection islamiste depuis 2009 a fait au moins 20 000 morts et plus de 1,6 million de déplacés selon les Nations Unies. Au Sénégal, des milliers de moutons, bœufs et chevaux ont péri la semaine dernière en raison des intempéries et de manque d'alimentation. Le président Macky Sall a précisé que près de 23 000 têtes de bétail ont été décimées. En visite hier dans la zone touchée, dans le centre du pays, il a offert 1 milliard de francs CFA aux victimes et a incité donc les populations à bien pouvoir instruire les corps dans le sol pour éviter tout problème sanitaire. Au Zimbabwe, les élections générales du 30 juillet, les premières depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, constituent un test déterminant pour l'avenir du pays, a estimé le chef de la mission d'observation de l'Union européenne lors d'une conférence de presse dans la capitale Harare. Les scrutins de l'ère Mugabe ont souvent été contestés pour fraude et violence attribuées à son régime. Son successeur Emmerson Mnangagwa a promis à de multiples reprises que les élections de la fin du mois serait libre, transparente et honnête.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À minuit heure de Washington, soit 4 heures en temps universel, les droits de douane de 25% décidés par le président Donald Trump sont entrés en vigueur sur un total de 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que des mesures de représailles sont entrées en vigueur immédiatement. Des droits de douane complémentaires de 25% sur un montant égal de produits américains, selon l'agence officielle Chine Nouvelle. Ces nouvelles taxes ont déjà changé les habitudes des consommateurs chinois.
Je ferai de mon mieux pour soutenir les produits domestiques. Je viens juste d'acheter de l'eau. Je pense que les produits fabriqués en Chine sont les meilleurs.
Je ne vais certainement pas l'acheter si le prix augmente.
La Maison Blanche avait déjà imposé des taxes de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium venant de la Chine, de l'Union européenne, du Canada ou du Mexique.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Pyongyang. Il tentera d'obtenir de Kim Jong-un des engagements plus précis sur la dénucléarisation après le sommet entre le dirigeant nord-coréen et le président Donald Trump. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Nos leaders ont pris des engagements lors du sommet de Singapour sur une dénucléarisation complète de la Corée du Nord, a déclaré Mike Pompeo lors d'une escale sur la base américaine de Yokota au Japon. Il a ajouté que le but de son déplacement est d'obtenir des détails sur ses engagements. Depuis sa rencontre le 12 juin à Singapour avec Kim Jong-un, le président américain s'est montré optimiste sur les chances de paix dans la péninsule, assurant que la menace d'une guerre nucléaire est écartée. Cependant, le communiqué commun de Kim Jong-un et Donald Trump ne détaille pas les engagements. Pour Washington, la dénucléarisation impliquerait de la part de M. Kim une déclaration détaillée sur son arsenal nucléaire et son programme d'enrichissement de l'uranium et que Pyongyang devrait accepter un calendrier pour son démantèlement sous inspection. Mike Pompeo se rendra ensuite à Tokyo, au Vietnam et à Abu Dhabi avant de rejoindre Donald Trump à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN les 11 et 12 juillet.
Par ailleurs, le président américain Donald Trump va rencontrer la première ministre britannique Theresa May et la reine Elizabeth II lors de sa visite officielle la semaine prochaine au Royaume-Uni, a annoncé vendredi toute la presse britannique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, le journal de la Coupe du Monde avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Ekia, bonsoir à tous. On vit actuellement le quart de finale entre le Brésil et la Belgique. Grosse domination des Belges qui mènent 2-0. On est à 6 minutes de la mi-temps. Le premier coup du sort pour les Brésiliens. Fernandinho qui marque contre son camp sur corner. Puis c'est De Bruyne qui double la mise pour les Diables Rouges sur une belle accélération de Lukaku. À noter le retour avec les Seleção du latéral gauche Marcelo, le vainqueur de ce match qui jouera contre la France. Un peu plus tôt cet après-midi, la France s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial. C'était son objectif initial, une victoire 2-0 contre l'Uruguay. Tout s'est joué en deux temps. Tout d'abord, Raphaël Varane de la tête avant la pause inscrit le premier but. Puis c'est Antoine Griezmann en deuxième mi-temps sur une énorme erreur de main du gardien uruguayen Fernando Muslera qui permet à l'équipe de France d'assurer son succès. À noter qu'Edinson Cavani, le buteur uruguayen, eh bien, il était absent. Il avait déclaré forfait pour ce match en raison d'une blessure à un mollet. Les Bleus sont donc dans le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est la première fois depuis 2006. 2006, bien évidemment, c'était une finale perdue contre l'Italie. Et l'autre fois, c'était évidemment en 98, une victoire à la maison. Le vainqueur de Belgique-Brésil qui affronte donc la France en demi-finale. One life, live it up, 'cause you got one life. One life, live it up, 'cause you got one life. One life, live it up. Et demain samedi, les deux autres quarts de finale. Les Anglais rêvent de retrouver le dernier carré pour la première fois depuis 28 ans. Ils feront face aux Suédois qui ont attendu 24 ans avant d'atteindre les quarts de finale d'un mondial. Angleterre-Suède, c'est le premier choc avec Harry Kane qui fait la course en tête au classement des buteurs. Déjà 6 réalisations pour le buteur anglais. Et puis toujours samedi à Sochi, la Croatie face à la Russie, le pays organisateur. Moribonde avant son mondial, la Spornaïa peut déjà estimer avoir réussi sa compétition en atteignant les quarts de finale. Dans ce match, bien évidemment, la Croatie est favorite. Alors, évidemment, sur ces quarts de finale, on note la prépondérance des équipes européennes. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. Les deux affiches de la première journée des quarts de finale étaient sous le signe de l'éternel règlement de compte qui, à chaque édition, oppose l'Amérique latine à l'Europe. Jusqu'en 2002, l'Amérique latine avait pris un avantage de 9 titres contre 8, mais en 3 éditions d'affilée, l'Europe a rétabli l'équilibre et est passée devant en 2014. C'est la dernière Coupe du Monde en terre brésilienne qui a été le courant de cette évolution. Alors que le Nouveau Monde, malgré sa sous-représentation, alignait 4 postulants sur 8 dès la phase décisive des quarts de finale et que tout semblait se dessiner pour un nouveau sacre de l'Amérique latine à domicile, l'Allemagne gâchait la fête finale puis s'emparait du Graal dans le temple sacré de Maracana, confirmant le leadership de l'Europe au niveau des sélections nationales. Les raisons de ce retournement du rapport de force sont connues. La mondialisation est passée par là, orientant les meilleurs joueurs de la planète vers son pôle le plus actif et le plus riche en matière de football, avec ses grands clubs devenus de véritables multinationales, alimentant une formation intense. Tout ce qui a contribué à rehausser le niveau individuel des joueurs aux qualités désormais diverses. C'est bien cette qualité individuelle supérieure conjuguée à l'amélioration progressive de la production collective, plus que l'absence de Cavani, qui explique la victoire logique de la France contre l'Uruguay. Dès lors, le Brésil apparaît pour le sous-continent américain comme le dernier des Mohicans, capable d'inverser la vague européenne, même si la Seleção apparaît de plus en plus comme l'arbre qui cache la forêt. À bientôt.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Voilà, c'est la fin de ce coup de sifflet. On rappelle le score actuellement 2-0. Les Belges qui ont ouvert le score grâce à un but contre son camp du Brésilien Fernandinho. Puis Philippe De Bruyne qui a inscrit une superbe frappe pour permettre aux Diables Rouges de mener 2-0. On rappelle Ekia que le vainqueur de ce match rencontrera en demi-finale l'équipe de France qui a battu cet après-midi 2-0 l'Uruguay lors du premier quart de finale.
Merci beaucoup Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ekiabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à présent au dossier du jour. Les députés béninois disent oui au principe de la révision constitutionnelle. Le peuple béninois, à travers un référendum, est donc appelé à se prononcer sur cette révision de la loi fondamentale du pays qui pourrait aboutir à une plus grande représentativité des femmes au Parlement. La peine de mort devrait aussi être supprimée si le texte est adopté. La correspondance de Ginette Fleur à Bandé à Cotonou.
Après l'échec qu'avait connu le processus de révision de la Constitution en avril 2017, un groupe de députés acquis à la cause du gouvernement Talon a introduit au Parlement la proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990. Elle porte sur quatre points précis, à savoir le couplage des élections, la représentativité des femmes au sein du Parlement, la création de la Cour des comptes et la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort. Le constitutionnaliste y voit un piège, un désir de tout contrôler. Maître Orola.
Nous savons à quel point certains députés sont tenus. Parce que si vous savez que le Parlement est un refuge et qu'on y envoie des gens avec beaucoup d'affaires et qu'il faut lever des immunités, il ne faut pas les lever, etc. Ils sont tenus, ils ne sont pas libres. Et quand bien même on considérait qu'ils sont libres, ils ne sont pas responsables. Parce que à 6 mois de la fin de leur mandat, même s'il y a un principe de continuité, on liquide les affaires courantes. Ce n'est pas à la veille de son départ qu'on pose un problème aussi crucial et fondamental que la révision de la Constitution qui a été refusée.
Pour les pro-révisionnistes, il ne s'agit pas d'un acte isolé qui tient à dépouiller la loi fondamentale de son essence, mais il s'agit d'une volonté de rendre plus vivants certains aspects de la loi fondamentale pour la vitalité de la démocratie béninoise. Jean-Michel Abimbola.
Résolument, nous voulons et nous souhaitons éviter la polémique. Aujourd'hui, dans le souci de la transparence, dans le souci d'économiser pour le pays, dans le souci de mettre les Béninois au travail, il est quand même important de façon objective que ces petits amendements-là soient fait afin que véritablement que notre pays puisse désormais commencer par travailler.
Comme l'exige la procédure du Parlement béninois de telles circonstances, le dossier a pris par la Commission des lois qui a adopté la proposition. Après avoir voté dans un premier temps pour la prise en considération du projet de révision de la Constitution qui leur est soumis par 62 voix pour, 19 contre et une abstention, le vote de l'approbation qui requiert la majorité des 4/5 des députés n'a pu être concluant. Pour le député Arifari Bako, rien que le point relatif à plus de représentativité des femmes aurait pu convaincre ses collègues à approuver cette révision de la Constitution.
Si nous réussissons aujourd'hui à avoir un consensus global au sein de notre hémicycle, en dehors de l'hémicycle, quant à la participation politique des femmes, il s'agit d'une grande avancée pour notre démocratie. Et je ne comprends pas, et je ne veux pas aussi accepter que dans cet hémicycle, qu'un député, fils de femme, mari de femme, puisse voter ici contre une telle disposition qui permette la promotion des femmes en termes de participation politique.
Le Front pour le Suisse patriotique, très critique contre les actions du gouvernement, pense que les députés ont tort de penser qu'à la représentativité des femmes au sein du Parlement. Pour eux, toutes les couches de la société méritent qu'on se batte pour leur participation au vote des lois qui engagent le destin de tout le peuple béninois. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Que représente la fête du 4 juillet pour les Noirs américains? C'est la question posée ce soir dans l'Amérique et vous. Lorsque la déclaration d'indépendance a été signée le 4 juillet 1976, des Noirs étaient encore esclaves aux États-Unis. Conséquence, pour certains, les célébrations annuelles du 4 juillet ont un goût amer. Quel rôle ont-ils joué dans la guerre d'indépendance? Aujourd'hui, comment perçoivent-ils ce jour férié? On en discute avec nos invités à 19h temps universel. Le commandant de la force conjointe du G Sahel, le général malien Didier Dako, a été remplacé. Son départ fait suite à une récente attaque contre le quartier général de la force régionale à Sévaré, dans le centre du Mali. Comment ce limogeage du général Dako est-elle perçue par les populations à Mopti? Écoutez ce reportage de notre correspondant Mamoudou Bokoum.
Cette décision de remplacer le général Didier Dacko à la tête du commandement de la force du G5 Sahel a été mal accueillie par la population mopticienne. D'aucuns voient en elle une recolonisation de l'Afrique.
Moi, je ne suis pas d'accord. D'autant plus que le Mali, c'est un pays indépendant. Cela veut dire que toujours nous sommes sous la colonisation française.
C'est la France qui l'a relevé, pas le Mali. Donc cela veut dire qu'on est toujours colonisé par la France. En un mot, le gouvernement malien ne peut rien faire sans l'avis des Français. C'est la France qui décide le tout. On n'est pas content de la réaction de la France, de ce que la France est en train de faire au Mali. On n'est pas content de ça.
Il faut savoir quand même que c'est un coup dur pour non seulement cette organisation nommée G5 Sahel, mais encore le plus intriguant, c'est que la décision vient de la France. Ça montre encore que l'Afrique n'est pas tout à fait souveraine, et plus particulièrement ces pays qui composent le G5 Sahel, qui sont en grande partie, je dirais, colonisés par la France. Est-ce là, ce n'est pas un peu une recolonisation?
L'ingérence ou la colonisation, en tout cas à Mopti, on estime que cette décision devrait être prise d'abord par les autorités des pays qui composent l'organisation.
Je voulais que, à ce que les pays du G5 s'assoient et décident, c'est à eux de décider le sort de Guinée Dago, c'est pas la France.
S'il y a n'importe quel problème au Mali aujourd'hui, c'est aux Maliens de gérer leurs problèmes à pied par la France.
Si ce sont ces cinq pays qui composent le G5 Sahel, même si encore l'appui quand même vient de la France, ils devaient quand même laisser la latitude au moins à ces G5 Sahel, notamment la présidence, le pays qui assure la présidence, de faire l'annonce.
La question qui se pose ici, c'est de savoir est-ce que cette décision n'influence pas négativement la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Mamoudou Bokouma Mopti pour VOA Afrique.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao au Mali sur 92.9 FM.
Au Cameroun, une élection présidentielle est annoncée pour cette année, mais la date précise n'est pas encore connue. Le président Paul Biya, au pouvoir depuis des décennies, n'a pas encore dit ses intentions. L'homme d'affaires Jean-Blaise Gouet a annoncé le 26 avril sa candidature, devenant ainsi le premier candidat déclaré dans la course à la présidence. Idriss Fall a d'abord demandé à Jean-Blaise Gouet quelle solution prévoit-il à la crise anglophone.
Depuis Boko Haram, le Cameroun, qui a été cet arbre de paix, traverse aujourd'hui une période assez difficile. Cette période crise anglophone, pour moi, elle n'est que normale parce que je l'avais vue depuis peu près 4 ans. J'avais fait une note à la haute hiérarchie en leur disant si on ne faisait pas attention, on risquerait de voir en fait naître d'autres poches de tension avant l'élection 2018. Hein. La crise anglophone est un malaise profond du peuple camerounais et voilà un peuple qui en fait a eu le courage de se dire non, nous ne voulons plus ça, nous voulons en fait choisir ce qui est bien pour nous et ce qui est mal pour nous.
Est-ce que vous êtes en train de légitimer ce que font les séparatistes?
Légitimer, non. Aujourd'hui, il y a un malaise qui est profond. Et ce malaise qui est profond amène les Camerounais, ou aujourd'hui certains Camerounais, à se soulever et à dire non. Maintenant, dire non, il y a un cadre légal dans lequel on peut protester. Ce cadre légal a effectivement été outrepassé. Le pouvoir en place fait exactement ce que moi je devrais faire demain. Voilà. Mais on ne peut pas fermer les yeux pour dire que ce problème-là, pourquoi ces gens sont fâchés? Ils sont fâchés effectivement parce qu'il y a une mauvaise répartition de nos richesses. Le pétrole est produit de ce côté de notre nation. Lorsque vous allez dans ces régions-là, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux. Quand on va à l'hôpital, on est obligé de mourir. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de travail. Un ensemble de choses qui en fait poussent aujourd'hui les Camerounais à se soulever. Que cette crise anglophone n'est pas comme problème d'anglophone, mais c'est une situation généralisée. Vous venez chez moi en pays bassin, vous allez trouver que nous produisons d'électricité et nous-mêmes là-bas, dans cette région, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, le système en place a fait ce qu'il a pu faire, mais il est temps aussi aujourd'hui de laisser les fils continuer à s'asseoir ensemble pour voir comment ils peuvent ramener ensemble la paix et comment est-ce que ce problème anglophone, on va le résoudre demain.
Vous êtes prêt à discuter avec les leaders anglophones en exil, les leaders de l'Ambazonie, libérer les prisonniers anglophones?
Les premières actions déjà est de libérer ces fils-là, d'inviter tout le monde au dialogue. S'ils veulent du fédéralisme, s'ils veulent diviser le Cameroun, un référendum, ce qu'il faudrait laisser libre choix aux Camerounais de choisir exactement ce qu'ils veulent.
Mais les francophones sont majoritaires, donc les résultats de ce référendum sont donc connus d'avance alors.
Résultats connus d'avance, nous avons en principe une crise, qui est une crise généralisée. Donc moi, je ne connais pas un problème anglophone. Moi, je parlerai plutôt de problèmes des Camerounais. Une partie de nos frères et sœurs qui a été courageux de se lever devant les armes. C'est-à-dire qu'une partie des régions ou deux parties des régions se sont levées pour dire non, nous ne voulons plus, nous préférons mourir parce que debout, nous sommes déjà morts.
Le milliardaire Jean-Blaise Gouë, candidat déclaré à la présidence du Cameroun.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
À Dakar, les populations sont confrontées à une forte pénurie d'eau depuis plusieurs mois. Les familles restent des jours sans voir la couleur de l'eau, ce qui n'empêche pas les factures d'être toujours plus chères. Les autorités en charge de l'eau sensibilisent les populations et annoncent de gros investissements pour faire face à cette situation. En attendant, Dakar et sa banlieue ont soif. Seydina Abagay.
À Rufus, que les femmes se tournent souvent vers les charretiers pour s'approvisionner en eau. Depuis le début de l'année, les populations sont confrontées à une forte pénurie d'eau. Ibrahim Fall passe des nuits blanches pour s'approvisionner.
Cela fait pratiquement 6 mois que nous vivons le calvaire du manque d'eau. Nous restons éveillés toute la nuit avec nos enfants pour attendre l'arrivée des quelques gouttes qui nous permettent d'avoir un peu d'eau durant la journée. Nous sommes vraiment fatigués par cette situation.
Ce manque d'eau met les femmes dans une position inconfortable, comme l'indique Bekay Fall. Ce dernier décrit le calvaire quotidien des dames.
Nos sœurs et nos épouses souffrent énormément de cette situation. Même s'il y a panne, les autorités doivent nous aider en réglant cette situation. Les femmes parcourent de longues distances pour se ravitailler en eau, ce qui est très difficile et déplorable. On reste toute la journée sans eau.
Du côté des autorités, on explique cette situation par un problème d'investissement, mais aussi par une forte croissance démographique. Yaye Diop, directeur de la communication et de la coopération de la Sénégalaise des eaux, apporte des éclaircissements.
Ce déficit de production est là parce que tout simplement, il y a un retard d'investissement. Il y a un moment où l'investissement ne suivait pas la demande. Et l'investissement ne peut pas suivre la demande puisque ce sont des investissements lourds qui demandent un financement très important. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi cette donne démographique qui n'est pas négligeable. Une croissance d'au moins 3,5%.
Au-delà des problèmes en approvisionnement, les populations se plaignent de la cherté des factures. Sakounian est une mère de famille qui juge cette situation incompréhensible. Elle interpelle les autorités.
À chaque fois, facture de feuille gagne à Yoku. Moi, c'est ma question. SDR, n'engagez des pour facturer.
Il faut que la société des eaux nous explique comment elle fait pour nous servir des factures aussi élevées en période de pénurie. On dépense au moins 4 000 francs CFA pour acheter de l'eau aux charretiers, ce qui est très difficile. Nous sommes vraiment sidérés par cette situation.
Du côté de la Sénégalaise des eaux, on appelle les populations à plus de vigilance pour ne pas s'exposer à une hausse des factures. Ndiaye Diop, directeur de la communication et de la coopération de la Sénégalaise des eaux, sensibilise sur ces cas.
Toutefois, je dois dire que par moment, surtout dans les zones où il y a des difficultés d'approvisionnement, les clients souvent ouvrent le robinet et pensent pouvoir attendre l'eau tranquillement. C'est une erreur de leur part que nous essayons de leur expliquer chaque fois qu'on a l'occasion de les rencontrer, puisque l'air peut faire fonctionner le mécanisme du compteur. Parce que quand vous ouvrez un robinet, vous sentez un sifflement. Ça veut dire que le compteur a déclenché. Si vous ne fermez pas, malheureusement, vous n'avez pas d'eau, mais le compteur est en train de compter comme si c'était de l'eau.
Pour mettre fin à la pénurie d'eau et soulager les populations, les autorités ont lancé de gros investissements qui, à terme, devraient garantir une offre supérieure à la demande jusqu'en 2035. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Cheikh Tchiro, à la console, Sidrak Franklin, à la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour plus d'actualités. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.